Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry. Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Qu'est-ce que le dialogue national inclusif peut apporter dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix? C'est le thème du grand dialogue de ce soir, délocalisé au CICB au niveau du dialogue national inclusif. Pour en parler, nous avons trois invités. Soumaïla Bayini Traoré, il est conseiller technique au ministère des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile. Fahad Ag Al-Mahmoud représente la plateforme et Ataï Ag Mohamed représente la CMA. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, on parle de mise en œuvre de l'accord pour la paix. Hier soir, on entendait Moussa Gataer de la CMA qui déclarait que nous n'avons plus envie de ce conflit. Alors, Ataï Ag Mohamed, la CMA n'a plus envie de ce conflit, c'est bien ça?
Bonjour d'abord. Merci de nous avoir conviés à cet échange autour du dialogue national inclusif. Surtout qui tourne autour de ce qui a pu apporter le dialogue à la mise en œuvre de l'accord. Et c'est très important de poser la question ainsi. Moussa Gataer a bien sûr fait cette déclaration hier. Je ne pense pas qu'on ait moins donné envie du conflit. Personne n'a envie d'un conflit, parce qu'un conflit, ça signifie que dès que tu t'engages, tu t'exposes également à tout ce qui existe comme menace dans les conflits. Aujourd'hui, ce qu'on a envie de réussir, c'est un engagement collectif sur le fait que nous répondons et nous traitons toutes les causes qui peuvent, n'est-ce pas, être la source de ces conflits. Tout ce qui peut être source, si on arrive à les traiter, nous allons éviter la violence.
D'accord. Fahad Ag Al-Mahmoud, est-ce que la plateforme également, c'est son point de vue? Vous n'avez plus envie de cette crise que vit le Mali?
Merci beaucoup. Nous n'avons jamais eu envie de cette crise. Ça, c'est clair. Ensuite, nous pensons que cette crise perdure surtout sur deux plans. Ce qu'on appelle l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, ici du processus d'Alger, qui traîne dans sa mise en œuvre et qui semble ne pas être compris par la majorité des Maliens. Nous pensons que ce dialogue apportera les éclaircissements nécessaires pour que l'accord et la caution des Maliens. Et si dans les différentes recommandations aussi, il y a des articles qui peuvent être discutés, ce n'est pas un tabou de discuter de l'accord au sein de ce dialogue, mais seulement on a dit que ce n'est pas un cadre pour les renégocier.
D'accord.
L'accord ne peut être renégocié que comme prévu par l'accord, c'est-à-dire l'article 67, d'accord. 65.
Et on va y revenir. Soumaïla Bayini Traoré, quelle est la position du gouvernement sur cette question qui est que Moussa Gataer a déclaré hier soir, nous n'avons plus envie de ce conflit?
Bon, je pense que nous pensons que cette déclaration est très juste du point de vue de l'État. Un État est en place, c'est pour prendre en compte, satisfaire les préoccupations et les besoins des populations à la base. L'État, c'est pour le développement durable. Tout le monde sait que les conflits, quand quand il y a le conflit, on ne peut jamais atteindre ses objectifs de développement humain durable. Donc, on n'a que dalle de conflits. Il faut que maintenant tous les Maliens du nord, du sud, qu'ensemble, qu'on voit comment est-ce qu'on peut taire tous ces phénomènes de conflictuels.
Donc le gouvernement également n'a pas envie de cette crise.
Bien sûr.
D'accord. Alors, Ataï Ag Mohamed, si vous représentez les trois principales parties signataires de l'accord pour la paix, si aucune des parties n'a envie de ce conflit, de cette crise aujourd'hui, qu'est-ce qui rend difficile la mise en œuvre de l'accord pour la paix?
En fait, c'est ça. C'est que finalement, on a l'impression que ce n'est plus le conflit qui est un problème aux yeux de certains participants, mais c'est l'accord. On a que l'accord est une proposition pour mettre fin au conflit. Alors, ce que nous avons constaté, c'est que beaucoup de gens ignorent même les contenus de l'accord. Ils se réfèrent souvent à des petites conclusions qui sont faites à gauche et à droite. Et nous avions eu comme exercice d'appeler les gens à lire, pareil même, et à interpréter les dispositions. Fahad a bien fait de rappeler que l'accord minimum prévoit dans quel cadre et dans quel par quel moyen, dans quelles conditions on peut évoquer la modification d'une de ces dispositions. Mais notre combat ici a été de participer, de contribuer à l'appropriation de l'accord à travers un débat sincère et franc. Il y a eu des questions très pertinentes, des inquiétudes souvent légitimes de la part des personnes, parce que on ne peut pas aussi comparer des personnes qui ont été impliquées dans tous les processus de négociation et ceux qui après découvrent un document fini. Il y a des termes qu'il faut bien expliquer. Et nous, notre exercice a été que chaque fois que l'accord est évoqué, qu'on parvienne à expliquer que telle disposition pour nous signifie ceci, en rassurant que cela n'a rien à compromettre pour ce qui concerne les principes autour desquels nous sommes tous pour le moment attachés et que nous réaffirmons. Au niveau de l'intégrité, de l'unité nationale, de la forme laïque de l'État. Donc déjà, ça veut dire que pour nous, l'accord n'est pas une raison de conflictualité, mais il doit être bien compris, bien approprié et s'engager ensemble à préconiser les mécanismes et les conseils pouvant permettre de l'appliquer avec intelligence, tout en sachant que le plus important aujourd'hui, c'est traiter les causes du conflit, pas que les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, les gens sentent qu'il y a beaucoup de gens évoquent les conséquences, le conflit a provoqué ceci. Un conflit, il fait partie de la société, le conflit. Mais après, lorsque les parties sont engagées à les résoudre, la réponse, ils peuvent la trouver. Et c'est la seule façon de traiter, à notre avis, aujourd'hui. La principale recommandation aujourd'hui, pour nous, c'est que le gouvernement se donne avec nous la main pour que l'on puisse expliquer à l'ensemble de l'opinion nationale le contenu de l'accord. Mais également, qu'on l'on travaille à sa mise en œuvre diligente.
D'accord.
Ainsi, nous allons répondre à beaucoup de demandes. Je vais terminer pour dire que quand j'écoute beaucoup de recommandations, que ce soit sur les plans de développement, les plans de la réconciliation, de la justice, de l'armée, quand vous ouvrez l'accord, il y a tout ça dedans, y compris les grands chantiers que les gens évoquent. Donc vraiment, pour nous, l'accord est un condensé de choses. Peut-être que si les gens même oublient l'accord, oublient tout, débattent de ce qu'ils ont comme problème, ils pourront même proposer mieux que l'accord. Mieux que l'accord, à notre avis.
D'accord.
Aujourd'hui, les gens peuvent aller louer.
Ok. Fahad Al-Mahmoud, pardon. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui bloque, sinon retard de la mise en œuvre de l'accord pour la paix, si toutes les parties sont de bonne volonté?
Moi, je pense que, je l'ai toujours dit, ce qui a beaucoup freiné la mise en œuvre de l'accord, la responsabilité est entièrement partagée entre les différents acteurs, mais le gouvernement a manqué, c'est-à-dire d'opportunité d'appliquer l'accord stricto sensu tel qu'il est dans les documents. Il s'est mis à la signature de plusieurs accords annexes qui font que ça complique la mise en œuvre. L'accord lui-même, c'est très clair, il est applicable en 4 mois. Dès qu'il est signé 30 jours après la signature de l'accord, on met en place les commissions de mise en œuvre de l'accord. 30 jours après, on va au cantonnement. 30 jours après, on va au DDR, aux différentes intégrations. Après, on va à la période intérimaire. Le gouvernement n'a pas procédé ainsi, je ne sais pas pourquoi. Et c'est maintenant, on est parti dans des interprétations. Et les gens jouent sur le temps. Les gens, et chacun observe de son propre angle. Et donc, il n'y a pas eu. Les différentes positions de vue n'ont pas été harmonisées. Et aussi, il ne faut pas ignorer la présence de d'autres acteurs qui tirent aussi leur épingle du jeu de l'alignement de l'accord. Je pense que tout ça, là, le premier rôle devrait être joué par le gouvernement. J'avais dit, le conflit, c'est deux problèmes. C'est celui qui est lié à l'accord et celui qui est lié pour le terrorisme. Je pense qu'au sortir de ce dialogue, le gouvernement aura le soutien de plusieurs acteurs, parce qu'il faut le reconnaître, le gouvernement n'a pas les mains libres au niveau de son opinion publique, au niveau de la classe politique pour la mise en œuvre de l'accord, mais aussi sur d'autres fronts, syndicaux et politiques. Nous attendons à ce que ce dialogue amène tous les autres acteurs autour du gouvernement et autour des signataires pour avancer et faire face aux réels problèmes du Mali aujourd'hui, que ce soit les signataires ou le gouvernement, ce ne sont pas les acteurs principaux. Il y a les agendas internationaux, que ce soit à travers des organisations terroristes ou autres, auxquelles il faudrait face dans un front commun de tous les Maliens.
D'accord. Soumaïla Bayini Traoré, la responsabilité du gouvernement est pointée du doigt par Fahad.
Moi, je pense qu'il faut savoir raison garder en termes de d'appréciation de la question des responsabilités. D'abord, c'est réel, la méconnaissance de l'accord, quoi que l'on dise, malgré tous les efforts qui ont été abattus, à longueur de journée depuis sa signature à ce jour, chaque fois il y a des associations, des organisations qui bénéficient des appuis, des partenaires, qui bénéficient des appuis du ministère de tutelle de la mise en œuvre de l'accord, le ministère de la Réconciliation, pour diffuser, vulgariser l'accord, mais c'est insuffisant. Aujourd'hui, la plupart des acteurs clés du jeu politique, du jeu de la société civile, en tout cas du terrain, méconnaissent le contenu réel de l'accord. Moi, je pense que cette méconnaissance est un grand frein dans la mise en œuvre de l'accord. Et ça, ce n'est pas le gouvernement, ça, c'est les acteurs, les populations civiles et autres. Secondo, il y a aussi les susceptibilités qui sont créées, qui sont suscitées par les acteurs de l'accord. Quand je dis les acteurs de l'accord, c'est les trois parties, les partenaires qui sont là pour accompagner, n'est-ce pas, les nationaux, les Maliens, à résoudre ce conflit-là. Les acteurs maliens même qui sont là, ceux qui, au début, nos frères qui étaient des rebelles, mais finalement qui ont arrêté la rébellion, qui sont des frères maliens, mais qu'on est en train de chercher la solution. Donc, les citoyens du Nord et aussi l'État. Souvent des susceptibilités, parce qu'on a dit qu'il fallait commencer par des actions de renforcement de la confiance. Et souvent, quand il y a des actions sur le terrain qu'on peut affecter à un acteur de l'accord d'une manière ou d'une autre, ça effrite la confiance. Donc moi, je pense qu'il faut que les gens, de façon sincère, responsable, sans mauvaise foi aucune, essaient de travailler pour que la confiance soit renforcée. Je donne simplement un exemple. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'à Kidal, l'absence de l'administration, l'absence des forces armées, l'absence des acteurs clés à Kidal, aujourd'hui, ça crée un problème de susceptibilité. Quoi que tu dises, quelques bonnes fois, quelques actions que tu puisses mener, tant que l'armée n'est pas à Kidal, mais le citoyen lambda va toujours se poser des questions. Et ça va dans tous les sens.
Pourquoi l'armée n'est pas à Kidal?
Non, je pense que tout est parti du conflit. Quand il y a un conflit, dans un premier temps, chacun essaie de travailler pour avoir sa chasse gardée. Mais avec l'évolution, on doit travailler à ce que, dès le moment où on est d'accord pour l'intégrité, le respect de l'intégrité, pour le respect de l'unité nationale, dès le moment où les acteurs, les frères du Nord et autres, nous sommes tous d'accord que nous sommes tous maliens, qu'on doit prendre en compte la diversité culturelle des uns et des autres, qu'on doit travailler pour que le développement vraiment puisse être accéléré dans certaines zones, pour qu'il y ait l'équité. À partir de cet instant, moi, je pense que le problème de la présence de l'État ne doit pas se poser. Et s'il arrive que les citoyens réalisent, ou une partie réalise que c'est un des acteurs qui n'est pas favorable ou bien qui encourage l'absence des forces armées, il y a de quoi. Peut-être à juste titre, il peut le faire à juste titre, mais il y a de quoi que les gens, à tort ou à raison, doutent de leur bonne foi. Moi, je pense qu'il faut qu'on se parle sincèrement. Ataïella, c'est un frère. Moi, je communique directement avec le président de la société civile, le fils Fé Agintala Kidal. Ils sont tous pressés que vraiment, acteurs société civile, qu'on soit là, qu'on travaille dans les programmes, dans les trucs. Moi, j'ai fait Kidal une fois. J'ai ma famille, j'ai une famille à Kidal. Donc, les Maliens, c'est comme ça. Mais il faut qu'aujourd'hui, que nous dépassons ces petits obstacles-là, que nous nous fassions confiance. Déjà, les acteurs facilitateurs et autres sont là pour l'intermédiation. Donc, qu'on fasse de telle sorte que vraiment ces susceptibilités-là soient levées. Bon. Je pense que d'autres acteurs, Fahad l'a dit, des terroristes, des narcotrafiquants, qu'il y a des ennemis du Mali qui ne sont pas amis ni de nos frères du Nord, la SEMA, de la plateforme, qui ne sont pas amis du Mali, qui ont intérêt à ce qu'il y ait toujours conflit, parce qu'eux, ils ont l'air gain dans ça. Donc, eux aussi, il faut qu'ensemble, qu'on arrive à les identifier, qu'on fasse un combat commun contre ces ennemis-là. Donc, ces ennemis-là aussi, les présents favorisent. Donc, moi, je ne vois pas la chose en termes de responsabilisation, de l'extraction d'un acteur, mais je vois en termes de responsabilité collective, et il faut qu'on aille vers la compréhension mutuelle pour faire face à ces obstacles.
D'accord. Ataï, qu'est-ce qui retarde la présence effective de toute l'administration malienne, notamment l'armée à Kidal aujourd'hui?
Oui, c'est une question qui revient beaucoup. Je pense que mes deux précédents ont bien fait de mesurer, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire qu'une seule partie soit responsable du retard.
Ça, c'est normal. Il faut être sincère avec soi-même. Nous tous, on a un rôle dans ce retard. Et souvent, c'est des rôles de causalité. C'est que toi, tu fais une chose, moi, j'en fais une autre, et puis je répète, et puis... Donc, ça se répète. Ensuite, quand on a signé cet accord-là, personne n'imaginait qu'aujourd'hui, on peut arriver à un stade où les gens pouvaient communiquer directement. C'est qu'ici à Bamako, les acteurs communiquent. Les membres de la CMA, de la plateforme du gouvernement au CSA communiquent tous les jours, fraternisent d'ailleurs. Même déjeunent ensemble en permanence. Et tu vas sentir que le conflit ici n'est pas un conflit comme les autres, dans les autres pays. C'est vraiment un conflit à caractère politique. Les individualités ne pèsent pas dedans, même s'il y a souvent des cas isolés, des frustrations qui sont peut-être existées depuis longtemps et qui sont souvent nourries par des situations. Mais il faut comprendre les conflits comme ayant un fondement politique.
Justement, il y a certains qui se posent une question. Ils se demandent comment les différents acteurs, notamment la plateforme, le gouvernement, la CMA, peuvent sourire, échanger, discuter, manger ensemble, alors que le citoyen lambda est en train de souffrir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on ne dit pas au citoyen lambda?
C'est ce que je voulais. C'est pourquoi j'ai évoqué cette question. C'est normal. C'est la preuve que je n'ai rien contre M. Bayini Traoré, son individu. Je n'ai rien contre M. Boiré, qui est le ministre, ou M. Cham, qui est la réforme. Moi, je pense que, parce que nous allons dépassionner lorsqu'on échange. Et que, mais cela ne signifie pas que nous avons atteint des résultats sur des accords politiques qui engagent le gouvernement, qui engagent l'État à long terme, à court, moyen, long terme. Et ces engagements, ils se font par une coordination. C'est pourquoi moi, je veux dire que le gouvernement du Mali est le premier responsable de la mise en œuvre de l'accord. C'est lui l'autorité de l'État reconnue avec une souveraineté internationale. C'est lui qui doit conduire, avoir un plan cohérent. S'assurer que l'accord qu'il a signé, il veut l'appliquer. S'assurer qu'il y a des choses qui ne sont pas applicables et les évoquer de façon clarifiée. Ainsi, les partis vont se comprendre. Amener l'accord devant l'Assemblée nationale, comme on l'a fait en 92, l'Assemblée se prononcera par ordonnance. On saura que vraiment, il n'y a pas de souci, parce que c'est la Cour constitutionnelle aussi pourra voir. Ainsi, je pense que l'opinion publique pourra être rassurée que cet accord n'a pas de problème. Deuxième chose que je vais évoquer, c'est l'absence de continuité gouvernementale. Chaque fois qu'un ministre chargé de l'accord part et notre vient, on reboule. La confiance est reboulée, les actions sont reboulées. Il y a tout ceci qui se passe. Dès qu'un ambassadeur d'Algérie part, c'est comme si on reprend tout à zéro. Il n'y a pas de continuité gouvernementale à Syrie. Troisième chose, c'est la gouvernance de l'accord. Un accord, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de secteurs, départements sectoriels interviennent. Il faut qu'il y ait une véritable coordination, à la fois des actions à court, moyen et long terme, mais aussi des fonds, pour qu'il y ait une transparence autour des fonds. On parle aujourd'hui de fonds pour l'accord. Mais qui ici peut dire qu'il connaît même les montants de son? Moi, je ne le connais pas. Là, en tout cas, personne ne le connaît. Personne ne sait comment ça se gère. Donc, l'opinion à l'extérieur voit des gens qui sont dans des voitures, moi, je vois tous les jours la presse, il y a une photo il y a quelques jours, on disait que je suis nourri, pris en charge par le gouvernement, moi-même. Je ne suis même pas membre d'une commission de l'accord. Je travaille parce que je suis consultant indépendant. Mais les gens pensent que c'est l'accord qui me donne des choses. Je n'ai aucun salaire venant de l'accord, ni du gouvernement. De ma vie, je ne l'ai jamais réussi. Pourtant, c'est des accusations, des préjugés. Je reviens à l'autre aspect qui est que Kidal, par exemple, aujourd'hui, qui est visé. Kidal, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a le cessez-le-feu de 2014, de mai 2014. Après le cessez-le-feu, il y a ce qui s'appelle les arrangements sécuritaires, à côté du cessez-le-feu. Il y a même une cartographie. Validé par le gouvernement, les Nations Unies, Berkane, la partie à l'accord, qui dit que c'est telle partie qui est au contrôle de cette partie. Le redéploiement de l'armée reconstituée doit se faire en fonction d'un processus où l'état-major des armées et ainsi que les parties contrôlent le processus. Après le DDR complet, après tout ceci. Donc il y a un schéma qui est établi, il y a un agenda qui est établi, mais qui n'est pas respecté malheureusement. Et les gens savent ce qu'ils sont en train de faire au niveau du gouvernement. Moi, je le pense bien. Mais il y a des circonstances, des contextes qui font que souvent on est en dérapage. Et quand il voit également l'administration à Kidal, le gouverneur il est sur place, il se plaint même tous les jours. Finalement on dit même qu'il est acquis à la CMA. Certains disent que ce n'est qu'une photo à Kidal. Mais le gouverneur, il n'a aucune pression à Kidal. Il le sent, il n'a jamais dit de lui-même. Je ne vois pas pourquoi il ne le dira pas. Mais il a envie que même les enseignants reviennent. À Kidal, les écoles s'ouvrent, mais ce sont les gens qui se débrouillent pour enseigner à Kidal. Les agents sont payés, ils sont à Gao, ils sont dans les ONG, ils sont à Bamako, ils sont même des journalistes amateurs ici. Pendant qu'ils ont un salaire de collectivité territoriale à Kidal. Partout.
Et on va y revenir.
Oui, je vais quand même insister. Permettez-moi de dire quand même que dans les autres phénomènes qui se passent, parce que c'est important de l'évoquer, les acteurs qui existent, ne peut pas être sans rôle dans cette histoire. Je ne les accuse pas du tout. Mais je suis convaincu que si nous, nous avions un plan national ou dans lequel nous sommes...
Donc il n'y a pas de plan national de mise en œuvre de l'accord.
Il n'y a pas un plan national. Vraiment, il y a un désordre complet. Souvent, on te dit que c'est le ministère de la cohésion sociale qui gère quelque chose. Souvent, c'est la sécurité, souvent, c'est la défense. Souvent, c'est... Il n'y a pas de coordination. Il faut un gouvernement de l'accord.
Est-ce que vous comprenez cette non-présence effective de l'administration malienne à Kidal?
Moi, je pense que, comme je l'ai dit, la première faute dans ces domaines, elle est gouvernementale. Parce que c'est lui qui est en mission de la gestion de la chose publique et en mission pour le président de la République qui est garant de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Mali. L'accord prévoit, dès que dans les zones où l'État n'existait pas, il reviendra à travers les mécanismes opérationnels de coordination, le MOC. Sur le plan sécuritaire, le MOC est toujours dirigé par les femmes. Une fois que le MOC est dans une localité, elle revient sécuritairement sous le contrôle des FAMA. Donc, dès qu'on a mis en place le MOC à Kidal, la sécurité est restée aux mains de la CEMA. Administrativement, là où l'État n'est pas, selon l'accord, l'administration revient dans un premier temps sous la forme de ce qu'on a appelé les autorités intérimaires. Dès que les autorités intérimaires sont dans une localité, l'administration passe sous leur contrôle. À Kidal, elles ont été symboliquement mises en place, mais l'administration est laissée rester aux mains de la CEMA. Et je pense que ça s'est fait toujours dans des contextes pour signer théoriquement des points d'avancée de l'accord pour New York. Donc je crois que c'est sur ces deux points, et c'est comme si nous-mêmes on était en train de se mentir pour plaire à quelqu'un qui est très loin de nous.
Mais est-ce que vous dites que c'est la responsabilité du gouvernement? Est-ce que les deux autres parties, la CMA et la plateforme, facilitent le travail?
Non, bon, si la CMA trouve son compte dans la situation actuelle, la plateforme est très loin de trouver son compte dans la plateforme. Souhaite que tout le contrôle revienne à l'État, qu'on ait une autorité, qu'on reconnaisse tous, que chacun d'entre nous, voisins, frères, ne se voit pas sous le contrôle de l'autre. Ça, c'est ce que nous souhaitons. Et que c'est le gouvernement malien qui a accepté d'envoyer un gouverneur dans une région où il ne gouverne pas son bureau.
D'accord. Monsieur Traoré, il n'y a aucun plan national.
Avant de parler du plan national, je pense qu'il y a une grande contradiction dans ce que Fah dit. Parce que d'abord, quand il dit la responsabilité, c'est le gouvernement, mais en même temps, il développe un argumentaire qui, franchement, prouve que la responsabilité, c'est pas le gouvernement, c'est plutôt la CEMA. Parce qu'on a dit le MOC. Quand il y a le MOC, normalement, à partir du moment où il y a le MOC, toutes les forces sont représentées dans le MOC. À partir de cet instant, la direction du MOC est confiée aux forces armées régaliennes, forces armées maliennes. Mais tout le monde, la cause est composée de telle sorte que toutes les parties sont là-dedans, mais c'est l'État qui gère. Mais par contre, il y a MOC à Kidal, mais c'est la CEMA qui gère toujours la défense.
Pourquoi?
En ce moment, le pourquoi, c'est parce que, de notre humble avis, l'État ne veut pas être dans une belligérance. Sinon, c'est antinomique, c'est en déphasage avec les règlements de l'accord. Moi, je pense que sur ce point précis, ça crée un problème de susceptibilité. Soit l'État fait un forcing pour assumer sa responsabilité, et en ce moment, il y aura une crise, il y aura une belligérance, il y aura encore une situation conflictuelle. Soit la partie qui empêche l'État d'assumer sa responsabilité de direction du MOC se ravise, se dit vraiment, nous avons convenu dans l'accord que chaque fois qu'il y a MOC, c'est l'État qui dirige, mais nous sommes tous dedans. Et cette partie-là, c'est par exemple la CEMA. Donc, si nous sommes des frères et qu'on arrive à un point où on se parle, on se fait confiance, c'est vrai, on ne peut pas tout donner parce que les choses doivent aller de façon évolutive, mais à un certain moment, on doit pouvoir dire, bon, écoutez, c'est vrai, la situation du terrain est telle que nous maîtrisons, nous connaissons les susceptibilités, nous pouvons veiller sur des choses, mais par responsabilité, par reconnaissance, par respect de l'État dans toute sa souveraineté et par respect à l'accord, il faut que le MOC qui est là, à Kidal ou à Gao ou à Tombouctou, le chef du bataillon soit des forces républicaine.
Malienne. Ataï pense qu'aujourd'hui, il y a un désordre total parce qu'il n'y a pas de plan national de mise en œuvre de l'accord pour
maintenant,
la paix.
Maintenant, par rapport au plan national, je pense qu'il est mieux placé parce qu'il est dans les différentes réunions au niveau du ministère de... Notre département n'est pas le département de tutelle de la mise en œuvre de l'accord. Mais nous savons qu'aujourd'hui, l'État est en train de marcher comme sur des œufs. Parce qu'à partir du moment où il y a l'accord et que tout se reconnaît que nous ne sommes plus dans une situation de rébellion et que nous sommes tous fils du Mali, mais qu'il faudra de façon évolutive aller vers le règlement de tout ce qui est les aspects qui ont suscité cette belligérance-là. À partir de cet instant, l'État travaille pour aller de façon évolutive, de façon intelligente, ne pas imposer des choses. Maintenant, ce plan-là, ça revient à tout le groupe. L'État a une politique nationale de réconciliation. L'État a une politique nationale déjà qui est une politique nationale de sécurité. L'État a déjà des politiques publiques. Ce qui empêche la mise en œuvre, rien que la mise en œuvre des différentes politiques publiques que l'État a actuellement, même si on met l'accord à côté, rien que la mise en œuvre, la facilitation de la mise en œuvre de ces politiques publiques-là, le problème du Kidal serait géré, le problème du conflit serait géré. Mais qu'est-ce qui empêche de le faire ? Quand les enseignants viennent, ou quand les partenaires viennent pour investir, ou quand les services techniques de l'État viennent pour investir, il y a toujours des situations d'attaque.
Farhad pense que souvent, nous sommes trop concentrés sur l'avis des partenaires.
Non, ce n'est pas une question d'être concentré sur l'avis des partenaires. Les enseignants, quand ils viennent, ou bien les services de santé, quand ils viennent pour faire des travaux, il y a toujours des attaques. Et quand il y a des attaques, aujourd'hui, c'est le MOC, les forces de défense qui sont sur le terrain qui doivent travailler pour sécuriser tous ces investissements ou tous ces acteurs étatiques qui viennent pour faire le travail. Ou souvent quand l'État vient affirmer son statut régalien, en tout cas travailler sur un programme de développement, c'est des questions de drapeau, c'est des questions d'exhibition qui créent des frustrations et autres. Moi, je pense qu'en vérité, l'État a conscience de son rôle. L'État a un plan de développement. Et je sais que le comité de suivi a un plan de déroulement du DDR, de DDR. Fait une feuille de route.
Les deux autres parties sont...
Ils sont signataires, ils sont au courant, ils participent à la mise en place de ces feuilles de route-là. Les actions clés sont dans les... Il y a une feuille de route acceptée par toutes les parties de l'accord, mais dans la mise en œuvre, il y a toujours des obstructions.
D'accord. Pourquoi la CEMA continue-t-elle de gérer le MOC à Kidal?
Je pense que c'est même important de clarifier avant de continuer sur... Parce qu'il faut qu'on revienne un peu à l'intérêt du dialogue sur l'accord. C'est ça le thème.
On va y revenir tout de suite, mais juste cette partie.
Je vais expliquer. C'est très important. D'ailleurs, j'allais le faire ce que les auditeurs ont envie de comprendre. Le MOC à Kidal, aujourd'hui, l'armée était partie à Kidal avec 172 éléments. Parce que le MOC, c'est 200 éléments de chaque partie. Souvent, même certains parties, l'inclusivité était impliquée à un moment donné avec 100 et quelques personnes. Sur les 172 éléments des FAMA envoyés à Kidal aujourd'hui, il n'y a que 8. J'étais allé voir la semaine dernière dans le camp, il n'y a que 8 personnes. Les 8, c'est des locaux en fait, c'est des résidents qui ont leurs femmes là-bas. Tous les restes, ils sont partis à 2, 3, 4, 5, ils ont fui, ils sont partis tout seuls. Il n'y a jamais eu d'accrochage. Il n'y a eu aucun incident qui a touché un élément du MOC à Kidal, qui est FAMA. Ils sont partis d'eux-mêmes. La plateforme, elle a envoyé des éléments qui sont restés souvent, d'autres sont partis, mais ils attendent aussi, parce que la plateforme et la CMA ne sont pas le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit équiper les MOC, les organiser. Et dans l'accord des principes par rapport aux MOC, tous les MOC doivent être dirigés par un officier de l'armée régalienne, républicaine. Ce n'est pas un membre de... C'est un accord qui est connu. Donc, aucun MOC n'est dirigé par un officier qui est ici d'une partie à l'accord, à part le gouvernement. Peut-être qu'il y a eu des pour les grades, oui, mais le commandement appartient à l'autorité de l'État. Pour les grades, il y a des commandants souvent pour certaines régions. Maintenant, sur les 172, il n'y a que 8 qui sont restés. Actuellement à Kidal, il y a 2 semaines, j'étais là-bas. L'autre chose, c'est que à Kidal, le gouverneur, il est présent et personne n'a par lui ne fait d'acte de naissance. Personne n'a par lui ne fait un récépissé de succession. Personne n'a par lui ne prend fait un document avec l'aménagement. Personne. Personne ne peut le faire. Après, l'aménagement, en tant qu'accompagnateur du processus, parle avec tout le monde. Mais l'aménagement passe d'abord par le gouverneur à Kidal. Même une délégation. La dernière fois, c'était l'Ocha qui était à Kidal. Il devait passer chez le gouverneur avant de rencontrer la CMA. Et nous comprenons, nous pensons que c'est normal. Parce que c'est lui qui représente l'autorité souveraine de l'État à Kidal. À côté de lui, il y a d'autres directions, la santé qui est déjà ouverte à Kidal. L'éducation, l'académie, qui sont déjà présents. L'EDEM est présente à Kidal. La Somagep est présente à Kidal. L'ORTEM, il va tous les jours avec son directeur régional. Mais on demande au retour des services sociaux de base. Ils ne viennent pas. À côté des MOC, qui est intérimaire autant que les autres intérimaires, parce que les MOC, c'est intérimaire. C'est une force mixte de quelques éléments limités pour assurer la sécurité des autorités intérimaires et des sites de cantonnement. Mais avec les Mali, on a compris que les conflits ne sont pas les mêmes. Au Congo, un site de cantonnement peut fonctionner. Mais au Mali, on sait que c'est différent parce que les gens habitent chez eux avec leurs armes. Donc, c'est pas évident de les cantonner quelque part. Ça ne fait qu'il y a des dépenses inutiles. Donc, les gens ont fait 8 sites de cantonnement pour rien du tout. Personne n'est dans un site de cantonnement parce qu'ils ont compris que ça ne sert pas à grand-chose.
D'accord. Aujourd'hui, concernant le dialogue national inclusif aujourd'hui, quelles sont les conditions posées par la CMA pour participer à ce dialogue national inclusif?
Permettez-moi d'évoquer les autorités intérimaires.
En 30 secondes.
Oui, les autorités intérimaires, qui sont très importantes, qui ont été mises en place dans la région de Kidal, et au sein desquelles le gouvernement a proposé des personnes, la plateforme et la CMA. La plateforme fait l'offre de garder ces hommes. Le gouvernement, mais les gens qui l'a proposé, on ne les a pas vus. C'est souvent des conseillers techniques. Ils viennent ici, ils restent ici, ils ne repartent pas à Kidal. Mais c'est l'autorité intérimaire de Kidal aujourd'hui est mise en avant par rapport à toutes les décisions sur Kidal. Mais la CMA, en tant qu'autorité de fait pour des actions de sécurité, essaie de travailler avec tout le monde sans outrepasser ses limites. Mais vu que c'est elle qui a la force et la puissance publique, d'office, avec, elle va être aperçue parce que les gens voient le côté apparent de la chose, mais pas le côté réel. Le côté apparent, il existe et il est dominant.
D'accord.
Mais je reviens maintenant au dialogue.
Les conditions que la CMA a posées pour participer à ce dialogue.
Je ne pense pas qu'il faut appeler ça des conditions. Il faut juste appeler ça le retour à ce qui est prévu, à ce qui est convenu d'avance. Fahad l'a dit, c'est très bien. Par exemple, l'accord pour la paix, à l'article 65, il dit, dès qu'une des parties à l'accord pense qu'il y a une disposition modifiable pour des craintes par rapport aux principes qui sont annoncés au premier chapitre de l'accord, il faut qu'il les pose au CSA et les parties en discutent et qu'on vienne d'un truc. Donc, on est au gouvernement. Nous n'avons pas perdu de dialogue. Et vous l'avez constaté. Nous avons apporté notre pierre à ce dialogue. Nous avions des choses que les Maliens apprennent avec nous. Et nous avons appris des choses. Nous avons rencontré des gens qui, on imaginait, étaient des gens qui ne voulaient pas nous voir, mais on a compris que c'est le contraire. Mais s'il y a des recommandations par rapport aux questions de l'accord, le gouvernement définit le cadre comme convenu. Ce n'est pas dire que l'accord, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas la Bible. C'est nous, c'est les hommes qui l'ont écrit. Ils peuvent faire des erreurs. Ils peuvent même proposer mieux que l'accord.
Donc on peut parler de la révision de l'accord au cours de ce dialogue national.
Non, les gens peuvent évoquer. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que les gens disent révision de l'accord. Mais quoi dans l'accord? Il faut que c'est ce qui est intéressant. C'est ce qu'on a dit aux gens. Dites-nous article 7, article 12, article 9. On pense que cette question n'est pas très claire. On note. Le gouvernement rapporte les recommandations sur les questions de l'accord au niveau de là où il y a besoin de l'accord. Il rapporte les questions sur la défense au niveau du ministère de la Défense. Il rapporte les questions sur la sécurité au niveau du ministère de la Sécurité. Il sait ce qu'il va faire le gouvernement. Mais pour les questions qui reviennent à l'accord, dès que le gouvernement enregistre avec nous, parce que nous allons aussi prendre acte, parce que pour nous, la population n'appartient pas qu'au gouvernement. Le gouvernement a la légalité souveraine, mais la légitimité, on la partage. Elle est à différentes échelles. Peu importe ce qui peut passer les gens, nos mouvements aujourd'hui ne sont pas que des groupes armés. Nous sommes des mouvements au sein desquels vous avez des hommes politiques, vous avez des leaders communautaires, vous avez des femmes, des jeunes qui portent un projet de société. Il peut être exagéré, comme je le dis souvent, mais il est à discuter. Tant que c'est de la politique, on la discute. L'important pour nous, c'est aujourd'hui aller à la révision constitutionnelle, de sorte que tous les Maliens s'en approprient du contenu, du vrai projet de révision constitutionnelle. Et ainsi, nous allons permettre de créer les conditions d'application de cette disposition tout en respectant ce qui est commun.
D'accord.
Alors, permettez-moi quand même de dire que pour nous, quand quelqu'un te dit on ne peut pas aller à la révision à cette condition, nous pensons qu'il faut que les gens comprennent que la cohésion sociale, la confiance, la révision constitutionnelle, le dialogue, ce sont des moyens pour aller vers la paix. Ce ne sont pas des fins en soi. Donc, ayons le courage de comprendre que en allant à la révision, on permettra d'intégrer des éléments pour les réformes législatives et réglementaires, pour aussi avoir avec nous, au XXIe siècle, un état de nos besoins.
D'accord.
Notre message, il faut avoir un état des besoins.
Fahad, à vous, aujourd'hui, est-ce que tous les sujets liés à l'accord pour la paix, même la révision de l'accord, peut être discuté au cours de ce dialogue national inclusif?
Moi, je pense que le dialogue, c'est pour discuter de tout ce qui ne va pas dans les pays et faire des recommandations.
Donc, aucun sujet tabou
lié à l'accord de paix? Il n'y a pas de sujet tabou. On peut faire les recommandations pertinentes sur, comme il a dit, les actes articles bien précis et indexer là où ça pose problème et ne pas aller, c'est comme le dit certains, l'accord c'est un esprit malveillant. Ça ne suffit pas comme ça. C'est un rejet. C'est jeter les bébés avec l'eau du bain. On pense que tout doit être discuté. Les gens qui n'aiment pas l'accord, les gens qui aiment l'accord, chacun doit faire ses recommandations. Comme lui, il a parlé de la révision constitutionnelle. On sait qu'il y a beaucoup de Maliens qui ne veulent pas qu'on parle de la révision constitutionnelle. Il faut aussi en parler. Il en est de même pour l'accord. Il n'y a aucun tabou dans ce dialogue. J'ai dit les remarquer dans mon groupe. Tout le monde parle à bâton rompu. Puis tout le monde exprime ses inquiétudes et fait des propositions.
D'accord. Traoré, la révision de l'accord pour la paix est-elle envisagée au cours de ce dialogue national?
Je pense que d'abord, il est important, peut-être c'était à l'introduction qu'on devait le dire, que ce dialogue national inclusif a enregistré un franc succès. Franchement, il faut le reconnaître.
Même s'il y a des acteurs qui ont décidé de ne pas y participer.
Oui, je vais en venir. En fait, il faut savoir biaiser les choses. C'est vrai qu'il y a des personnalités qui sont des icônes de l'opposition. Leur présence physique n'est pas actée. Mais il y a pratiquement aujourd'hui tous les acteurs, les partis politiques de la majorité, du centre et de l'opposition qui sont là. Des acteurs qui étaient très réfractaires tels que les Ali Noun Diallo qui sont là. Peut-être le chef de file de l'opposition n'est pas là.
D'accord.
Mais tu trouveras toujours des militants, des responsables de l'opposition farouche qui ont trouvé d'autres moyens pour venir avec d'autres structures.
D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut aborder la révision de l'accord pour la paix au sein de ce dialogue?
Et qui aujourd'hui sont en train de défendre les points. Quand je dis ça en restant du succès, c'est que tous les points qui étaient des griefs de l'opposition pure et dure contre le dialogue, tous ces griefs-là sont en train d'être défendus.
D'accord. Est-ce qu'on peut parler de la révision de l'accord pour la paix?
Par rapport à l'accord, l'opposition disait ils ne vont pas participer à un dialogue.
On va revenir sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Est-ce qu'on peut parler de la révision de l'accord pour la paix au sein de ce dialogue?
Non, justement, je vais en venir. Aujourd'hui, en vérité, ce qu'on est en train de faire, c'est un débat sur l'accord. La CEMA, la plateforme, ils sont venus. L'accord, pratiquement, chaque fois qu'on parle d'insécurité, quand on parle de paix et de cohésion sociale, toutes les personnes qui ont pris la parole la plupart du temps, c'est pour dire qu'il y a un déphasage entre l'article 1 et l'article 6 de l'accord.
Donc votre réponse est oui, on peut parler de la révision
aujourd'hui,
de l'accord.
Aujourd'hui, on est même en train d'en parler. Ce n'est pas qu'on peut en parler. L'accord est en train d'être discuté pendant le dialogue national.
Et qu'est-ce que le dialogue national inclusif pourra changer dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix?
C'est que le dialogue peut... C'est-à-dire, il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas au cours du dialogue national et l'accord et les réformes et tous les problèmes de gouvernance qui sont évoqués ici. Ce n'est pas le dialogue national qui va s'asseoir pour dire... Ok, ça c'est changé, décider du changement de telle chose dans la Constitution ou dans telle loi. Mais le dialogue indique les points d'achoppement, les points où il faut réfléchir, où il faut prendre de nouvelles dispositions.
Donc des recommandations.
Donc aujourd'hui, le dialogue a acté dans pratiquement tous les groupes. Le dialogue a dit, bon, quand tu regardes l'accord, les sept titres, si tu prends les sept titres, il y a au moins deux titres où il y a des problèmes.
Lesquels?
Par exemple, quand tu prends par rapport au préambule, c'est très clair. Le préambule consacre tout ce qui est la souveraineté de l'État. Quand tu prends l'article 1er parle des principes fondamentaux qui parlent du respect de l'intégrité territoriale, de l'unité. Mais quand tu pars à l'article 6, par exemple, tu verras qu'il y a des brides, des signaux de fédéralisme, des signaux de régionalisation poussée qui peuvent être des risques. Mais même là, c'est pourquoi nous disons une bonne connaissance de l'accord et la rigueur de ceux qui vont mettre en œuvre l'accord, notamment les administrateurs et les responsables de la plateforme de SEMA, peuvent nous épargner toutes les craintes des gens. C'est que chaque fois qu'on dit quelque chose qui puisse être un risque de régionalisation ou de défritement de l'autorité à la base, on dit conformément à la loi ou on dit dans le respect de pouvoir régalien de l'État. Je vous donne simplement une illustration. Chaque fois que tu lis l'accord, tu te rends compte, tu te poses la question, mais finalement, est-ce que ce qu'on dit
dans les bureaux, ce qu'on dit dans les réunions politiques, ce qu'on dit dans la rue, sur les antennes. Est-ce qu'on n'a pas entre-temps changé et paraffé un autre accord que je suis en train de lire? Par exemple, quand on prend les...
Farad a parlé des annexes.
Même pas les annexes, dans le corps même de l'accord. Quand tu prends, par exemple, certains vont dire que, bon, écoutez, on a dit, on va arroger, les collectivités au nord vont s'arroger des pouvoirs de prendre des lois ou des décisions par rapport aux mines. Quand tu vois le chapitre sur ce volet-là, après, il est dit conformément, les taxes-là, dont on parle là, c'est conformément à la loi. Et c'est toujours, c'est conformément à la loi. Et la loi, qu'est-ce qui adopte la loi? C'est l'Assemblée nationale. C'est pourquoi aujourd'hui il est important d'aller vraiment à des institutions légitimes.
D'accord.
Une assemblée nationale légitime avant
aujourd'hui,
pour que
si
cette assemblée composée de toutes les composantes de la nation dans sa diversité.
Les principales parties signataires de l'accord pour la paix participent à ce dialogue national inclusif. Au cours des recommandations, dans les recommandations, si le public décidait que vous proposez que l'accord soit révisé, est-ce que ce sera le cas? Parce que certains craignent que les recommandations ne soient gardées dans les tiroirs.
Mais les acteurs ne sont pas opposés à ça. Hein. Même la CEMAT, j'ai vu l'élément de langage dans tous les groupes. Ils n'ont pas dit qu'ils sont opposés à la révision.
On va leur demander. La CEMA était opposée à ça.
Conformément à l'article 65.
Ok. La CEMA était opposée à ça.
Je pense qu'il est très important de.
Il y a un risque.
C'est ça. Voilà. Exactement. Je pense qu'il faut être un peu mesuré. Et c'est un dialogue national, inclusif, qui est censé évoquer tous les problèmes de ce pays. L'accord pour nous n'est pas un problème, mais il est cité parmi les problèmes. Mais il y en a d'autres encore. Il faut que les gens arrêtent la fixation sur l'accord.
Oui, mais aujourd'hui, on est en train de parler de l'accord pour la paix et la réconciliation. S'il vous plaît, je pose juste la question.
Oui.
Au cas où, dans les recommandations proposées aujourd'hui, la révision de l'accord pour la paix, est-ce que la CMA accepterait ça?
Je viens. Il ne faut pas confondre révision, relecture et modification des dispositions. C'est très important. Article 105 ne parle pas de relecture. Il parle de modification de certaines dispositions qui pourraient apparaître incompris par une des parties. Alors, les recommandations seront prononcées par tout le monde ici. On en prendra compte des recommandations. Et on va respecter les cadres adéquats pour mettre en œuvre les recommandations. Parce que nous aussi, en 2014-2015, nous avions des choses encore en tiroir qu'on n'a pas pu faire passer, qu'on veut encore ajouter. Alors, ça va ouvrir une brèche à la négociation. Si on retourne à la négociation, on va renégocier. Autant des gens pensent qu'ici, ils sont contre des contenus, autant nous aussi, nos militants, pensent qu'on n'a rien trouvé, on a été vendus. Ils disent que nous-mêmes, nous sommes des vendus, que le gouvernement nous a tout donné. C'est ce que c'est dit, qu'on est nourri ici auprès du gouvernement.
D'accord. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de Maliens aujourd'hui qui n'ont pas compris l'accord pour la paix. Alors, dans ce
l'appropriation.
Cas, l'appropriation de l'accord pour la paix. Dans ce cas, est-ce que ce dialogue national inclusif pourra changer quelque chose?
J'en viens. Maintenant, c'est qu'il y a des gens maintenant qui ont compris clairement que... Supposons que l'accord n'existait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, le pays n'a pas besoin d'une loi fondamentale répondant aux besoins? Aujourd'hui. Quand tu prends la Constitution, je prends des exemples. Quand tu prends l'état d'urgence, l'article 45 de la Constitution du Mali, l'article 72 parle de l'état d'urgence au Mali et de l'état de siège. Vous savez que la Constitution a seulement dit que le chef de l'État prend un décret pour 10 jours pour déclarer l'état d'urgence. Après 10 jours, l'Assemblée se réunit pour prendre une loi de prolongation. La Constitution n'a pas dit qu'elle prend la prolongation pour 6, 8, 9 mois ou une fois ou deux fois. La Constitution a laissé. C'est pourquoi depuis 3 ans, on est en prolongation de l'état d'urgence. Deuxième chose, quand tu prends les élections, les jeux démocratiques faussés, parce que la Constitution n'a pas garanti qu'il y ait d'abord les législatives avant la présidentielle. Quand il y a la présidentielle avant la législative, tout le monde va à la présidentielle aux côtés du président de la République pour être député et être une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Tu as un jeu démocratique qui est faussé parce que la Constitution, c'est un exemple, deux exemples. Il y a beaucoup d'autres choses. Nous pensons qu'aujourd'hui, ce que nous proposons au nom de l'accord dans la Constitution, c'est pour permettre à ce qu'on aille vers la régionalisation qui est évoquée, qui est un système de gouvernance qui ne viole pas l'unité nationale ni l'intégrité. Et on met des garde-fous en Espagne, par exemple. La Constitution a dit, j'octroie l'autonomie à la Catalogne, mais la Constitution a prévu que celui qui va avoir des intentions indépendantistes, la Constitution les bloque. Ça, on peut les mettre. Donc, c'est un système où, au niveau de la région, personne ne prend une loi. C'est l'Assemblée qui prend une loi.
Et c'est une bonne chose, Farad.
Je vais terminer, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de temps.
Je vous donnerai toujours toute la parole. Est-ce une bonne chose, ce qu'il est en train de proposer, notamment qu'une région ait une autonomie?
Moi, je voulais rester dans le cadre de l'accord.
Toujours dans le cadre de l'accord.
Dans le cadre de l'accord. la question était, est-ce que le dialogue
national
PDC
pourra
changer l'accord. À mon avis, c'est ce qui a été dit, le dialogue ne peut qu'émettre des recommandations.
Est-ce que ces recommandations
sont prises? Ces recommandations, il revient au gouvernement de se battre pour les mettre en œuvre ou bien pour leur mise en œuvre.
Est-ce que la plateforme sera d'accord pour que ces recommandations soient
si
mises en
œuvre? Si ces recommandations touchent à la mise en œuvre de l'accord, il faut les discuter avec les partis. Voilà telle recommandation, ça demande le changement de tel article.
Il
y a le mécanisme qui est déjà
prévu. Vu que les partis sont déjà représentés au
niveau de ce
dialogue.
Les partis sont déjà représentés. L'accord, on ne peut pas interdire de rediscuter l'accord. Il faut parler de si une des parties dit ça, c'est pas bon. Par exemple, les grands, tout ce qui est bien pour un État unitaire, républicain, démocratique et la souveraineté du Mali,
d'accord.
C'est acté dans le premier article
de l'appropriation de l'accord pour la paix.
Tout ce qui est contraire à ça, si le gouvernement le découvre à l'intérieur de l'accord.
Vous avez tous déploré que certains Maliens ne se sont pas appropriés l'accord pour la paix. Est-ce que toutes les parties signataires se sont appropriées l'accord pour
Moi,
la paix?
Moi, je pense que nous, de notre côté, on l'a expliqué dans toutes les zones, c'est-à-dire de Gossi à Rarous jusqu'à Inkhalid.
Oui, mais est-ce que toutes les parties se sont appropriées l'accord pour la paix?
Il y a eu tellement, comme M. Traoré l'a dit ici, il y a eu tellement d'associations qui ont été financées.
Non, je parle des parties même, des parties signataires.
Les parties, je pense que nous, de notre côté, tous les gens qui répondent de nous, on les a exposé l'accord.
Si les parties se sont appropriées l'accord, pourquoi sa mise en œuvre pose problème, même si certains Maliens ne l'ont pas?
En fait, la question d'appropriation n'est jamais faite à 100%. Parce que chaque fois que, si on voit que les gens se plaignent toujours et qu'en tant que parti signataire, on réalise que les gens sont en train de diffuser des choses qui n'ont rien à voir avec le contenu de l'accord, qui en fait ne doit pas poser de problème. C'est pourquoi le besoin de vulgarisation continue et se pose. C'est pourquoi nous pensons aujourd'hui, déjà c'est un acquis, c'est positif la présence de tous les acteurs de l'accord ici, CEMA, plateforme auprès de la population.
Auprès du dialogue. Et le temps de faire
le dialogue. Non,
on aura d'autres occasions pour revenir sur la question.
Je vais juste terminer. Nous pensons que il faut vulgariser vraiment le contenu de l'accord.
Afin que
tout
le monde puisse
travailler à appliquer l'accord. Maintenant, dans l'application, on évalue. Là où il y a un problème, on discute s'il faut réviser, s'il faut modifier, s'il faut trouver d'autres solutions.
Merci beaucoup, Soumaïla Baïni Traoré. Vous êtes conseiller technique au ministère en charge des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile. Merci Fahad Ag Al-Mahmoud. Vous représentiez la plateforme. Ataï Ag Mohamed, ici au nom de la CMA, à la régie audio, Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Celui-ci a été délocalisé au CICB pour parler de la mise en œuvre de l'accord pour la paix au sein du Dialogue National Inclusif. Merci à tous.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri. Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.